Vous regardez de temps en temps, j'imagine, le journal télévisé, RTBF ou RTL, et prenons celui de RTL régulièrement. Soyez attentifs de temps en temps, ce journal, vous verrez, Hakima Darmouche ou Caroline Fontenoy ou Michel Tiempon, qui annoncent une nouvelle en studio, face caméra, et puis on passe à l'envoyé spécial en direct. Il est sur le trottoir rue de la Loi, devant le Parlement, où il est. Avenue de la Toison d'Or, peut-être, devant le siège du MR, ces temps-ci c'est souvent le cas. Et en fait, il n'en sait pas beaucoup plus que ce que la présentatrice du journal télévisé vient de vous raconter. Mais il glisse souvent dans son commentaire, là, derrière moi, en ce moment, et il répète finalement l'information qu'on vient d'entendre en studio. Retour au studio, et Hakima Darmouche, je lui dis, et merci, Intel, pour toutes ces précisions. La séquence, elle est typique finalement de quatre phénomènes qui sont tout à fait propres et spécifiques, je pense, à la communication et à la médiatisation moderne. Le mythe de la communication, le mythe de l'instantanéité, le mythe de la transparence et le mythe de la proximité. En tout cas, j'ai isolé ces quatre-là et je me propose de les examiner maintenant avec vous, l'un après l'autre. Alors oui, je parle de mythe au sens de phénomène illusoire, si vous voulez, qui joue un rôle quand même réel, déterminant dans l'activité humaine. Je vais dire souvent journaliste. Vous pourrez remplacer, et je vous invite à le faire, le mot par communicateur, par individu, voire même par société ou par groupe social, parce que je pense que les phénomènes, vous le verrez, ne sont pas exclusivement typiques du journalisme, mais aussi donc d'un tas d'autres communicants. Et ils ne sont d'ailleurs pas propres non plus à une sorte de média, mais à plein d'autres médias. Alors, le mythe de la communication. Vous le savez, si vous n'êtes pas vu, si vous n'êtes pas lu, si vous n'êtes pas entendu, ben vous n'existez pas. C'est en tout cas l'espèce de conviction, voire l'obsession moderne qui s'est installée maintenant partout. Et on peut l'expliquer par plusieurs raisons. Finalement, l'espace public, on en a beaucoup parlé justement aujourd'hui, principalement dans le premier exposé. L'espace public qui était avant ben, la place publique, la place du village, le forum, le café, voire même le Parlement, qui est encore un peu le lieu de l'espace public. Mais l'espace public aujourd'hui, ce sont les médias, évidemment. C'est là que se situe l'espace public. Deuxième élément d'explication sur cette folie de la communication, si je puis dire, c'est que la communication s'est professionnalisée. On a des attachés de presse, on a des chargés de relations publiques, des directeurs de la communication. Et je vois, j'ai enseigné 20 ans à l'UCL et ensuite dans d'autres institutions, où je vois les auditoires qui sont remplis, remplis, remplis de gens qui choisissent encore, qui choisissent majoritairement depuis un certain nombre d'années, l'option plutôt relations publiques ou événements culturels ou événements au sens large plutôt que l'option information et journalisme. Troisième élément, c'est que la technologie, bien entendu, favorise la communication. Je vais faire un peu ancien combattant, là, mais moi je me souviens de l'arrivée du fax dans une rédaction. Le fax. C'est-à-dire qu'avant ça, on mettait quand même, si on avait un garçon de course, ça prenait quelques heures, pardon. Si on n'avait pas de garçon de course dans le journal, ça mettait quand même une journée pour avoir le document. Et puis subitement, on avait ce document en 10 minutes. Alors, que dire aujourd'hui avec Internet et les appareils numériques mobiles? Donc, on est arrivé à un stade où n'importe quelle instance, et je veux dire par instance aussi bien une société qu'un ministère, qu'une association, n'importe quelle instance veut communiquer parce qu'elle estime que la visibilité est devenue une valeur en soi. Et donc on a une offre inouïe d'informations, je veux dire, qui arrive dans les médias. Vous savez, en 26 ans de journalisme, j'ai vu la montagne d'informations s'accumuler de façon incroyable, où le matin, il y a 20 ans, avec l'information qui était déjà là, avant même que j'aie travaillé une minute, j'avais de quoi faire remplir éventuellement l'équivalent d'un journal ou deux. Aujourd'hui, je peux en faire 20 avec ce qui est arrivé tout seul et je n'ai pas encore travaillé une seconde. Donc, une montagne d'informations, une tâche de plus en plus ardue pour notamment les journalistes dans la sélection de l'information, ce qui est quand même notre boulot presque basique, c'est faire le tri sans arrêt. Donc aussi une compétition entre les informations, de la part cette fois-ci des sources et des professionnels de la communication, une compétition parce qu'ils savent très bien que si on est nombreux sur la ligne de départ, on est très, très peu nombreux sur la ligne d'arrivée en termes de communication. bon nombre de ces messages sont condamnés à ne jamais arriver, effectivement, dans le système médiatique, parce que, justement, et j'en arrive au cœur de ce mythe de la communication, il y a confusion pratiquement permanente entre communication et information. Alors, c'est quoi la différence? En quelques mots, l'objet de l'information, enfin, tel que moi je le définis et je le vois, en tout cas son enjeu, si vous voulez, c'est la nouvelle, c'est le contenu, c'est ce que je vous dis. Là où l'objet ou l'enjeu de la communication, c'est d'abord la relation qui s'établit. C'est Régis Debray, dans L'État séducteur, qui dit l'important, c'est le contact, non le discours. Alors le propos est un peu caricatural, il y a aussi un contenu, enfin il y en a parfois, en tout cas dans la communication, mais encore une fois, l'objectif, l'enjeu, c'est bien la relation, c'est le contact. Autre différence, le mandataire, c'est-à-dire ou le référent, pour le dire comme ça, dans l'information, c'est le public, c'est le destinataire. Comme journaliste, quand je pense information, je pense d'abord à celui qui va me lire, m'entendre, me voir. Dans la communication, le mandataire, le référent, c'est évidemment la source, c'est celui pour lequel je communique et donc dont je suis chargé de vanter les mérites, de créer l'image, de provoquer le rapport de sympathie avec le public, etc. Si vous voulez, l'informateur, il dit, ou le journaliste, il dit « voici votre histoire », là où le communicateur va dire « voyez comme j'existe ». Donc, il ne faut pas nécessairement ranger tous les journalistes, c'est une parenthèse que j'ouvre ici, du côté des informateurs et tous les autres du côté des communicateurs. On voit que les choses, là, le clivage se brouille et que les médias eux-mêmes et les journalistes, eux aussi, sont entrés depuis plusieurs années déjà dans l'ère de la communication. On assiste à des glissements de l'information vers la communication et ça se voit très, très concrètement. Pourquoi est-ce que PPDA est resté 20 et je ne sais plus combien d'années au journal télévisé? C'est parce qu'effectivement, il y avait cette relation précisément entre TF1, la chaîne, et le public. Et PPDA était l'invité dans la maison, dans le salon, dans la salle à manger, et qu'il créait précisément la communication. Et TF1 ne l'a pas lâché plus tôt, si je puis dire, parce qu'on comptait sur la fonction communicatrice de PPDA, avant même qu'il ait ouvert la bouche, et quoi qu'il dise. L'envoyé spécial, dans le premier conflit du Golfe en 1991, c'était tout à fait particulier. C'était un peu comme ma séquence en direct par laquelle j'ai commencé. Quand l'envoyé spécial était dans le désert de Jordanie et qu'il en savait moins sur le conflit du Golfe que ce qu'on venait de nous dire depuis les studios de Paris, parce que là au moins il y avait des dépêches d'agence qui arrivaient, eh bien le but, ce n'était pas tellement, voire pas du tout, de nous informer, c'était d'établir la relation entre la chaîne de télévision et le public, et de dire à ce public, nous sommes sur place. J'y reviendrai tout à l'heure. Et vous, cher public, vous êtes un peu sur place grâce à nous. Nous sommes en contact. On n'a rien à vous dire, on ne sait pas ce qui se passe, mais nous sommes là. Vous voyez, c'est ça la différence, communication et information. C'est pas que la télévision, magazine, la presse écrite, a aussi, je dirais, glissé vers la communication. Et là, c'était un peu plus tôt, dans les années 70, fin des années 70, quand, sur le plan de l'écriture simplement, au lieu de titrer les magazines « L'argent des Belges, la santé des Français », c'est devenu « Votre argent, votre santé ». Également une rhétorique de la communication et du contact qui, à un moment, s'instaure. Processus de séduction aussi, qui relève pleinement de la communication, quand M. Sarkozy fait son jogging complaisamment filmé par les caméras de télévision, c'est pas un hasard de rencontre où tout d'un coup, tiens, voilà Sarkozy qui court. Non, tout ça a été évidemment orchestré. Et vous savez que dans les cabinets ministériels et politiques, il y a des experts et des spécialistes de la petite phrase qui préparent les petites phrases qui simplement devront être glissés habilement dans un débat où tout d'un coup, mais monsieur Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur, et puis que ça fait le tour de toutes les gazettes, à l'époque des débats Giscard-Mitterrand, eh bien là ce sont des petites phrases qui ne doivent rien évidemment à l'improvisation totale. Donc là aussi on est dans un processus de séduction-communication. Alors en vous disant ça, moi je ne veux pas décréter que la communication est diabolique ou scandaleuse. Non, la communication a toute sa raison d'être. Ce qui me semble nécessaire de souligner, c'est qu'on puisse être suffisamment éveillé pour identifier les processus de communication là où ils existent, autrement dit de ne pas être dupe de la communication. Quand on est source, c'est de se poser quelques questions élémentaires. Je donne beaucoup de formations souvent à communiquer avec la presse dans le milieu associatif. Et je me rends compte à quel point pas mal d'associations n'ont qu'un souci, c'est de pouvoir dire au grand public, ben, on existe quand même depuis 20 ans, on fait un boulot formidable et on ne parle jamais de nous dans la presse. Mais oui, mais ce n'est pas ça l'information. Moi, je leur dis, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce que vous avez quelque chose à dire de nouveau? Est-ce que vous avez pensé à qui vous allez le dire? Et puis après, on réfléchira comment on va le dire. Mais si on ne se pose pas d'abord la question de est-ce que j'ai quelque chose à dire et quoi, dans un système médiatique dont on connaît les limites et les règles du jeu, on est très très mal parti. Et il ne suffit pas d'envoyer une bouteille à la mer en disant on fait quand même un boulot essentiel à la société depuis 20 ans, ce serait bien qu'on parle de nous. Voyez. Donc, connaître les limites du système et ne pas prendre automatiquement pour de l'information ce qui est de la communication. Deuxième mythe qui est celui de l'instantanéité. Alors ça, ça remonte déjà avant Internet. C'est l'ici et maintenant qui était déjà venu des mots-clés dans l'information-communication. Et il y a 12 ans déjà, Dominique Volton, donc un chercheur au CNRS français, écrivait ceci: l'information devient omniprésente et confine à une tyrannie de l'instant. On sait tout de tous les coins du monde sans avoir le temps de comprendre ou de souffler. La tyrannie de l'instant, c'est l'expression qui convient merveilleusement, je veux dire, aux médias d'aujourd'hui et qui consiste à vouloir finalement raconter le monde en temps réel. La première guerre du Golfe, encore une fois, a été un moment clé dans cette tyrannie de l'instant, avec notamment CNN, si certains s'en souviennent, qui avait une caméra sur je ne sais plus quel bâtiment, et la caméra était en robinet grand ouvert, et on avait des images qui défilaient, donnant l'impression, mais il n'y avait pas de médiatisation, mais donnant l'impression au public qu'on était à Bagdad et qu'il suffisait de regarder CNN pour savoir ce qui se passait. Je crois qu'en Belgique, l'affaire Dutroux et ses suites ont été aussi des moments tout à fait révélateurs de cette tyrannie de l'instant. Vous vous souvenez de ces journaux télévisés où il y avait des bulldozers qui creusaient les jardins et on était en direct et on voyait le bulldozer, on n'a jamais rien trouvé, il n'y avait jamais rien à dire, mais chaque soir il fallait faire un direct depuis les bulldozers qui creusaient. Et si, c'est des responsables de la RTBF qui me l'ont raconté, si on passait un jour ou deux sans faire le direct, là, l'ici et maintenant, l'instant avec les bulldozers, il y avait des coups de fil furibards d'un certain nombre de gens qui disaient « Et moi, je vois les bulldozers à RTL, et vous, les RTBF, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes même pas foutu d'être là. » Donc, l'instant, il n'est pas seulement dans la tête des journalistes ou des médias, il est aussi l'exigence de l'instant dans la tête du public. Souvenez-vous de la commission parlementaire, avec les directs, jusque tard dans la nuit. Souvenez-vous du procès Arlon qui a suivi ensuite, avec là aussi l'instant où il était très important, voire primordial, de voir la voiture qui sortait en ce moment même et qui se dirigeait vers le parking du palais de justice, comme si subitement c'était l'instant qui valait, et l'instantanéité qui valait en soi bien davantage que le contenu. Il n'y a pas d'instantanéité sans vitesse. Les deux notions sont évidemment constitutives l'une de l'autre. Et de ce côté-là, la communication, l'information, les médias ont fait un bond prodigieux en quelques décennies. Quatre points de repère dans les années 60, pour qu'il fallait une semaine entre les images filmées par une équipe de reporters de la RTB, qui n'était pas encore F, au Congo, parce qu'on confiait le film à un pilote de la Sabena qui ramenait ça. Il fallait le développer, il fallait le monter, grosso modo une semaine. Années 70, il n'y a plus que 48 heures entre les images du Vietnam et le passage au journal télévisé. Fin des années 90, la numérisation est là et l'instantanéité devient possible. On communique en direct à l'instant même depuis la Jordanie ou l'autre bout du monde, mais ça vient quand même dans des moments, dans des espaces qui sont dévolus à l'information. C'est le journal télévisé ou éventuellement une émission spéciale annoncée comme telle. Aujourd'hui, c'est l'instantanéité, mais tout le temps avec Internet, parce qu'avec Internet, il n'y a plus la notion de bouclage. Les journalistes n'ont jamais fini. Ils ne peuvent pas dire, mes collègues, comme je le faisais moi avant la presse quotidienne, eh ben voilà, il est 21h, de toute façon, on a bouclé, je rentre chez moi, je ne sais plus rien mettre dans le journal. Non, Internet, c'est le flux continu, c'est le robinet grand ouvert en permanence. C'est donc le robinet ouvert à l'instant et à la vitesse. L'instantanéité médiatique existe même là où il n'y a pas de médias. C'est aussi une évolution, une conséquence de la numérisation. Enfin, les petites caméras vidéo, les portables, les GSM ont permis effectivement à la communication d'être partout, même où il n'y a plus de communicateurs professionnels. Les premières images de tsunami, les premières images des attentats de Londres et de Madrid, tout ça, c'était des images d'amateurs. Vous savez qu'il y a d'ailleurs un métier qui consiste maintenant pour des agences de presse, quand il y a des grandes catastrophes mondiales, à envoyer des gens dans les aéroports pour accueillir les passagers qui reviennent de ces régions-là pour leur demander leurs images, vidéos ou photos, ou parfois contre rétribution, pour justement être les premiers à avoir ces images. Les blogs, les sites, les réseaux sociaux sont aussi évidemment des instruments d'instantanéité, si je puis dire, d'immédiateté, là où il n'y a pas nécessairement d'informateurs professionnels. Et c'est d'ailleurs une des raisons de la crise morale ou la crise d'identité que le journalisme et les journalistes vivent depuis un certain temps, c'est qu'on a perdu notre monopole d'informateurs. Vous pouvez tous, chacun, faire votre journal, devenir une source d'information, avoir votre média à vous. Alors tant mieux, je pense, pour la participation citoyenne, tant mieux pour aussi la critique des médias qui se multiplient parallèlement. Il n'en reste pas moins, je pense que ça fait pas mal de dégâts collatéraux pour la qualité de l'info. Alors, toujours sur ce mythe de l'immédiateté, quelques conséquences que je pense dangereuses. Le temps de la vérification est forcément réduit. On en arrive même, et je l'ai appris récemment, à ce qu'à l'agence Belga, il y ait une instruction qui dit, ben, pour l'équipe du soir, quand ils ne sont pas très nombreux, si vous avez une nouvelle importante, vous l'envoyez à vos clients, la dépêche d'agence, aux médias notamment, avec en dessous trois lettres, TBC, to be confirmed. Et puis on vérifiera demain, dans la suite. Vous imaginez l'espèce de bouleversement que ça indique sur le processus et la démarche d'un journalisme classique auquel j'ai été nourri notamment avec tous les gens de mon âge, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas une info tant qu'elle n'est pas confirmée. Eh bien maintenant, si. Parce que, encore une fois, Internet impose la tyrannie de la vitesse, la tyrannie de l'instantanéité. Deuxième conséquence que j'épingle, c'est que cette combinaison entre vitesse et abondance d'informations fait que la durée d'une information dans le système médiatique est de plus en plus courte. Le carrousel, il tourne, il tourne, il tourne, et à moins que la nouvelle soit jugée très accrochante, Jean Sarkozy, que va devenir Didier Reynders-Wehmer, je pense que c'est très discutable sur la valeur accrochante, mais enfin bref, à moins d'être dans un feuilleton médiatique, une nouvelle chasse l'autre de plus en plus vite. Et puis il y a simplement, à un moment, une histoire d'entonnoir. Comment est-ce qu'on fait rentrer de plus en plus de nouvelles dans un espace qui, lui, n'a pas beaucoup bougé? Est-ce que vous imaginez que le journal télévisé, qui est né en Belgique en 1954, premier journal télévisé belge, il faisait 30 minutes? Quelle est la durée d'un journal télévisé quand on ne déborde pas pour embêter les concurrents? 30 minutes. Mais en 1954, il y avait 5 ou 6 sujets dans le JT. Aujourd'hui, on est entre 15 et 20 sujets. Vous imaginez ce que ça implique sur le traitement journalistique aussi de l'information quand il faut expliquer le Proche-Orient, l'Afghanistan ou les enjeux sociaux ici, sur des séquences qui, c'est la norme au journal télévisé, doit tourner autour d'une minute 10. Et à la VRT, du côté flamand, on est passé à la norme des 100, sous la minute, c'est 50 secondes globalement. Il peut y avoir du plus, il peut y avoir du moins, mais c'est la moyenne, 1 minute 10 et 50 secondes de l'autre côté. Troisième conséquence, plus profonde encore, je pense, c'est l'exercice de la démocratie, si vous voulez, et la façon dont l'opinion publique se constitue, sont affectés, je pense, par ces phénomènes. Je ne sais plus qui a dit, la politique, c'est le temps de la réflexion. Et alors, il y a le philosophe Paul Virilio qui dit: est-ce qu'une démocratie du temps réel est possible? À poser la question, c'est y répondre. Et Pierre Bourdieu, sociologue, qui pose finalement quelques années plus tard là, une question pratiquement semblable, il dit: un des problèmes majeurs que pose la télévision, c'est la question des rapports entre la pensée et la vitesse. Est-ce qu'on peut penser dans la vitesse? Demande-t-il. Là aussi, la réponse est dans la question. Troisième mythe dont je voulais vous parler, le mythe de la transparence. Alors ça aussi, c'est un nouveau dogme, je ne sais pas qui l'a décrété, mais qui imposerait comme un devoir absolu de transparence à toutes les instances ou individus de la société. Et donc, par ricochet, il impose aussi aux communicateurs, aux journalistes, à l'individu dans la société, de tout savoir et de tout dire. Alors, on en arrive à des choses, effectivement, pour le moins absurdes ou discutables. Il devient impératif, par exemple, de révéler que Helmut Lotti échauffe et a une perruque. C'est quand même ce qui a occupé la semaine dernière quatre publications en Flandre, qui se sont toutes les quatre occupées très très sérieusement de ce sujet. ça impose aussi à certains, enfin ça croit, certains se croient obligés et en état de légitimité de publier sur Internet le nom des personnes qui, dans le passé, ont été condamnées pour pédophilie, pour qu'on sache, au nom de la transparence. Ça aussi, ça permet à certains d'exiger de personnes en vue qu'elles disent si oui ou non elles sont à la franc-maçonnerie, si oui ou non elles sont homosexuelles, et puis quel est leur bulletin de santé, et si un chef d'État ou un ministre ne refuse d'éventuellement cacher l'état de santé, eh bien on va évidemment le soupçonner d'un délit de non-transparence. La révélation ou le dévoilement, c'est devenu pratiquement une valeur économique aussi dans la presse, dans les médias. C'est vrai que si on veut vendre un peu davantage, attirer l'attention, faire de l'audience, la rhétorique de la révélation vient en leitmotiv, quitte à surjouer la révélation. C'est-à-dire, autrement dit, à vous présenter, à vous faire une vitrine de dévoilement de choses qui, très souvent d'ailleurs, ne méritent pas ce statut de révélation. Observez les titres des magazines. Et j'ai été payé pour le savoir, j'étais rédacteur-chef adjoint du Vif l'Express pendant 7 ans. Et donc, en couverture des magazines, le mot « secret », le mot « vraiment », ce que veulent vraiment les flamands, le mot « vrai », les vraies peurs des médecins, le mot « exclusif » qu'on rajoute au-dessus des titres, ce que personne n'a encore osé vous dire. Enfin, tout ça, c'est de la rhétorique du dévoilement. Alors, je vous jure que je n'ai pas copié, j'avais préparé avant d'écouter la radio aujourd'hui, et je tombe sur deux promotions radio de deux magazines en venant tout à l'heure. Un, le Vif l'Express à propos du MR et qui nous annonce les vrais enjeux de la querelle au sein du MR, donc j'ai rigolé. Et l'autre, c'est Lobby, je ne sais pas si connaissez ce magazine, qui nous annonce dans son sommaire, Madame Van Rompuy nous fait visiter son jardin secret. Je me suis dit, décidément, l'actualité me sert. Or, je pense que les journalistes, les communicateurs, la société, nous, vous et moi, nous avons aussi un devoir de silence. Ça peut être paradoxal de dire qu'un journaliste qui est là pour dire, pour annoncer, pour relater, doit aussi se taire. Mais en fait, ça n'est pas si paradoxal que ça, parce que c'est un devoir qui peut être ou bien légal, tout simplement. Je veux dire, l'identité des mineurs ne se donne pas, l'identité d'une victime de viol ne se donne pas. Je reprendrai après la pause, alors. Devoir déontologique, je veux dire, on respecte l'embargo, on respecte le off, on respecte la non-discrimination pour raisons philosophiques, religieuses, raciales, etc. Et puis un devoir éthique, Jean Lacouture, grand journaliste français, qui dit « Je persiste à penser que la mission d'informer n'est pas totalitaire, qu'elle implique de la part du responsable un choix, un filtre, une mise en perspective qui distingue précisément le journaliste des micros, de l'ordinateur, d'Internet. » Alors, j'accélère. Oui, mais j'ai pas rattrapé le retard des autres, moi. Ok. Les risques de la transparence. Mais c'est notamment l'arrogance journalistique. Si vous ne me répondez pas, c'est que vous avez quelque chose à cacher. Ou si vous ne me dévoilez pas votre jardin, votre cuisine, votre chambre à coucher, eh bien, j'irai par d'autres voies pour quand même savoir ce que je veux savoir. Le deuxième risque, c'est évidemment la surenchère. Dans la rhétorique de la révélation, on croyait que c'était jusqu'ici uniquement réservé aux journaux à scandale, mais vous voyez que ça gagne du terrain. Et puis, j'aime bien cette citation, Jean Lacouture également, un risque dans les modifications des comportements sociaux. Elle est courte, rassurez-vous. Non, il dit ceci, on va aboutir à une société où les gens, se sachant vus à tout instant, ne chercheront plus qu'à dissimuler. La personne qui se sait regarder à tout instant est portée à tricher en permanence. Donc effectivement, ce mythe de la révélation, de la transparence, risque d'amener les gens à tricher sur eux-mêmes et sur ce qu'ils sont. Et enfin, le mythe de la proximité. Je pense qu'il appelle un peu plus de nuances parce que je ne voudrais pas que vous compreniez que je condamne la proximité ou que je la trouve suspecte. Il y a des médias de proximité géographique, la presse locale, régionale, et elle a toute sa raison d'être, de proximité émotionnelle. Je pense que quand un média comme La Dernière Heure ou comme RTL, TVI s'annonce comme un média de proximité et assume complètement ça, ce n'est pas sur ce plan-là que j'aurais des reproches à leur faire. Proximité professionnelle, le journal du médecin, le magazine Prof pour les enseignants, c'est aussi de la proximité. Donc, proximité, ok, c'est d'être en empathie avec le public, à la différence d'une, je dirais, d'une presse plus d'analyse et donc de distance. Et le problème, c'est quand tout passe à la moulinette, évidemment, de la proximité, quand les médias réduisent les supposées préoccupations essentielles des gens uniquement au, peut-être aux besoins primaires dont on a parlé tout à l'heure, et on ne fait plus de l'info que sur la santé, le portefeuille et la sécurité dans ma rue. Là, je pense qu'effectivement, les médias, on disait ça pour le petit écran qui était la fenêtre ouverte sur le monde, deviennent, enfin c'est le risque, la lorgnette branchée sur mon nombril ou sur ma rue, mon quartier, ma communauté. Et donc, les réalités lointaines disparaissent. L'anecdotique et l'insignifiant proche valent mieux que l'essentiel lointain. Et là, je pense que le risque du mythe de la proximité est réel. L'autocentrage, évidemment, jusqu'à l'égocentrisme. Et donc le rejet de l'autre, et là ça rejoint l'exposé de Dan Van Den Broek, ne plus pouvoir se situer que par rapport à soi-même, ce qui serait quand même assez dangereux. Et plus généralement, et j'en suis déjà à la conclusion, je pense que la communication, je quitte un peu le journalisme pur, la communication a besoin, paradoxalement peut-être, de distance. La distance d'abord pour apercevoir l'autre. Je peux pas, si j'ai l'œil collé à l'autre, le voir dans son entièreté, dans sa globalité. C'est Dominique Volton, encore lui, qui dit que c'est par la distance que l'on s'apprivoise à l'autre et que l'on se familiarise avec lui. Et je pense aussi qu'on a besoin de distance, c'est-à-dire d'espace, pour que le langage, tout simplement, et les signes puissent exister. On ne peut pas se parler bien si on est collé les uns aux autres. Voilà, donc je vous souhaite une bonne communication, ne vous collez pas les uns aux autres.